l'Académie de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Existe-t-il une musique libanaise ? C'était la question que posait Caroline Bourgine dans deux numéros de Musique du Monde en 1998, en compagnie de l'écrivain longtemps collaborateur du journal Libération, Selim Nassib, dont le Liban est la terre natale. Pour y répondre, dans le premier volet que nous écoutons maintenant, de Baalbek aux montagnes du Chouf en passant par Beyrouth, entre ville et campagne, entre guerre et paix, on explorait les paysages musicaux du Liban sur lesquels brille toujours l'étoile de Fayrouz. Chemin faisant, on rencontrait Ziad Rabani, fils de la diva, et alors porte-drapeau d'une nouvelle génération d'artistes libanais, et on entendait aussi les chanteurs Ali Olaïl et Youssef Mousli. Musique du Monde, existe-t-il une musique libanaise ? Par Caroline Bourgine, avec les musicologues Victor et Elias Saab. Traduction, Jean Lambert.
Musique du Monde, Caroline Bourgine, bonjour. Tracer des frontières avec des lignes de couleurs, avec des lignes en pointillés. Tracer les contours d'un pays. Trouver les résonances pour une ville qui se nomme Beyrouth. Associer, dissocier. Mer et colline, montagne et plaine. Et regarder la Méditerranée. Saïda, Byblos, Baalbek, Tripoli, Zalé et tant d'autres cités de ce Liban. Porte du monde arabe, pays en guerre. Pays en paix, pays occupé. Aujourd'hui et mardi prochain, existe-t-il une musique libanaise ? Telle est la question.
أنا اللي كنت بدموعي بكتفي أنا اللي كنت بدموعي بكتفي ذكرت اليوم يا الليلة بكتفي قالت لي هيك وتهدت بكتفي عشقت غيري وجبت لي العزايا يا 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 بتعدي بتعدي قد ما بدك بتعدي خيولي شو لعندك بتعدي وان شاء الله تكون كلماتي بتعدي ويرجع مباشرة منك جوايا We'll be right back.
Aujourd'hui, en direct avec nous, nous recevons un fou de Beyrouth, un clandestin, Céline Nassib. Bonjour.
Bonjour.
Alors, clandestin, parce que c'est le titre de votre dernier ouvrage, un titre chargé de sens qui dévoile aussi une partie autobiographique de votre enfance dans la capitale libanaise. Alors, s'il n'est pas directement question de musique dans votre livre, il est en revanche question de l'accent des langues. Et je voudrais vous citer page 64. Mais l'accent, est-ce que nous avons l'accent ? Ça dépend, l'accent d'Alep est chantant, alors que celui de Bagdad, on dirait des rochers dans la bouche. C'est comme l'accent de ruse, encombré de K. D'accord, mais quand tout ça se mélange, est-ce que c'est différent de l'accent libanais ? Sûrement, encore que l'accent chrétien libanais ne ressemble pas à l'accent musulman libanais. Et même tous les accents musulmans ne sont pas pareils. Par exemple, Victor, ton oncle, a maintenant l'accent de Saïda. Mais nous, quand on parle arabe, quel est notre accent ? L'accent juif. Et d'où vient-il ? Il est un peu syrien, il faut le reconnaître. Il est donc question d'accent dans votre livre. Et je voudrais que toute cette émission, vous, comme vous le souhaitez, en clandestin ou en fou de Beyrouth, vous nous donniez aussi votre éclairage sur la manière d'appréhender les musiques, puisque je pense qu'elles ont aussi, bien sûr, bercé votre enfance.
Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas un grand connaisseur de la musique. La seule chose que je sais, c'est que par exemple la musique qu'on vient d'entendre, ça je connais bien. Je connais bien des musiques de réjouissance villageoise, des danses collectives. La même chose finalement. C'est-à-dire il y a 20 ans ou aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la même musique traditionnelle, un peu folklorique, la musique de la montagne, qu'on reconnaît tout de suite comme étant la musique libanaise. Voilà. Voilà pour la musique.
Enfin, la musique, il est vrai qu'il y a un précédent ouvrage, avant ce clandestin, qui a quand même beaucoup touché les oreilles musicales et les amoureux de Oum Kalsoum, puisque vous êtes également l'auteur d'un roman autobiographique, biographique, tout ça évidemment se mélange concernant cette grande chanteuse.
Oui, c'est-à-dire que dans le cas de Oum Kalsoum, c'est à mon avis très différent, parce que ce que Oum Kalsoum a chanté, c'est la musique arabe qui a envahi le monde arabe tout entier. C'est-à-dire que du Maroc jusqu'à l'Irak, en passant par l'Égypte évidemment, le Liban, la Palestine, tout ça. Oum Kalsoum était comme le fond de l'air. La musique libanaise est beaucoup plus locale, beaucoup plus vraiment de la musique villageoise à l'origine. À part Fayrouz qui, elle, a apporté cette musique à un niveau un peu plus arabe, disons.
Ils sont deux frères, Victor et Elias Shahad, musicologues libanais, qui au lendemain de la guerre civile ont favorisé la renaissance de l'élément musical arabe et de tout un patrimoine un peu en opposition à la modernisation de l'avant-guerre. Victor et Elias Shahad.
Je voudrais dire que les limites politiques qui subdivise l'Orient, si vous voulez, le Levant, l'Avent, comme on l'appelle, ne sont pas les mêmes limites artistiques, culturelles, anthropologiques, etc. Donc, ce qui fait que on ne peut pas parler de musique libanaise. On peut parler de musique arabe au Liban. Seulement, dans cette musique, on peut subdiviser les modes de vie qui font que chaque catégories de gens ont un mode aussi d'art, de musique, etc., de façon de vivre, etc. Les pays arabes, en général, sont divisés en trois modes de vie, le mode de vie citadin, le mode de vie rural et le mode de vie bédouin. Ce qui fait que, en musique, c'est absolument comme vous savez, en Europe, vous avez le folklore qui est dans les régions rurales et la musique classique qui s'exprime surtout dans les grandes cités. C'est la culture des grandes cités qui fait la musique classique, c'est la culture des régions rurales qui fait la musique folklorique. Maintenant, au Liban, il se fait que les cités libanaises vivaient avec les cités arabes une même musique classique, si vous voulez. Dès le 19e siècle, il y avait cet échange entre l'Égypte et les Bilad al-Sham, ce qui veut dire la Grande Syrie, donc la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie, ça s'appelait Bilad al-Sham. Il y a toujours cet échange entre les cités arabes, une musique classique, les chants liturgiques, si vous voulez, islamiques, Tajwid al-Qur'an et tout ça. Et sur un autre plan tout à fait différent, il y avait dans les Bilad al-Sham, il y avait cette musique rurale qui se subdivise en quatre grandes régions. Les Bilad al-Sham, dont nous faisons partie, donc la musique libanaise rurale, qui a été classicisée, si vous voulez, pendant le festival de Baalbek entre 1957 et 1974. Cette musique rurale appartient à la musique des Bilad al-Sham. C'est une partie, une deuxième région, si vous voulez, folklorique, se trouve dans les pays du Golfe, surtout les Bahara. Donc les marins de la région du Golfe arabique. Il y a une troisième grande région rurale, la région de l'Égypte et la vallée du Nil. Il y a une quatrième région rurale musicale arabe, c'est la région de l'Occident arabe. Nous appelons l'Occident arabe le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie.
Une réaction au propos des frères Cham?
Ben, c'est vrai que les gens au Liban ont des accents tous très différents. C'est vrai qu'on peut les reconnaître à leur accent. Enfin, moi, je suis pas très fort à ce petit jeu, mais je sais que c'est tout à fait possible, hein, même entre une ville du Nord. Bon, parce que c'est un pays qui est composé de communautés différentes, toutes petites, plus ou moins fermées sur elles-mêmes. Mais c'est vrai que tout ce monde vit dans la même musique. Ce n'est pas tellement cette musique que nous sommes en train d'entendre qui est la musique du Golfe, mais la musique, comme l'a très bien expliqué ce musicologue, la musique des pays de Damas, Bilad al-Sham, c'est-à-dire Syrie, Liban, Palestine, Jordanie, cette région-là. Et il y a eu un dialogue entre cette région-là, qui a été une des sources du renouveau de la musique à la fin du XIXe siècle, et l'autre grande région qui est l'Égypte. Il y a eu ce va-et-vient... Évident. Alors, quels que soient les accents, c'est vrai qu'on a tous baigné dans cette musique, sauf effectivement ceux qui étaient occidentalisés et qui préféraient écouter, je ne sais pas, les Beatles, comme partout ailleurs.
Bah, la personne que nous écoutons se nomme Youssef Mousli. Il vit sur les montagnes du Chouf, à une bonne heure de Beyrouth, hein, sur le mont Liban. Et Youssef est un chanteur populaire, artiste, il travaille notamment beaucoup avec les joutes poétiques. Alors nous avons été accueillis à l'entrée de sa maison par une hyène qui venait d'être fraîchement empaillée et par toute sa famille qui était rassemblée pour nous recevoir. Nous étions en compagnie de Jean Lambert qui nous a accompagnés durant tout ce voyage. Jean Lambert est ethnomusicologue entre autres et traduit pour nous les présentations. Jean Lambert, nous sommes ici dans la maison de Youssef pour, je dirais, notre première rencontre avec un musicien populaire, traditionnel. On commençait à parler de la généalogie, de l'histoire de ses parents, de comment il a appris la musique. J'aimerais qu'il nous situe dans quel contexte il a appris à la fois à jouer de son instrument, à chanter, et comment tout ça s'est fait. Il y a ses enfants qui sont autour de lui, qui jouent déjà du tambour. Est-ce qu'il peut me rappeler tout cela?
Mijouez. كنت ابن 12 13 سنه
j'avais 12 ans
عملت
pour commencer à jouer donc le méjouez qui est la clarinette double en roseau. Il a commencé par couper une tige de roseau et puis il a fait des trous et il a donc commencé d'oreille à produire des mélodies.
هلا لحتى تعلمت النفس على طول يعني حتى ما يخطو المجوز جبت كباية ماء.
Donc il avait commencé par souffler dans une paille dans un verre d'eau, en regardant donc la continuité du souffle et des bulles dans l'eau. Et petit à petit, quand il a été capable de faire ça, il a commencé à le faire sur un seul tube de mijoueuse pour s'entraîner. Et puis après, les deux tubes, donc, puisque normalement c'est un instrument qui a deux tubes. Et comme ça, progressivement, il a appris à 12-13 ans, donc, et ça fait 47 ans qu'il joue.
Donc les premiers moments de sa vie de musicien ont commencé comme cela. Et puis est-ce qu'après il a aussi joué sur des... Il a été invité, après il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Il a à ce moment-là décidé qu'il allait toute sa vie jouer de la musique. C'était pour lui ancré dès le départ dans sa tête. Il s'est dit ça, ce sera ma vie.
Au début, je ne voulais pas devenir professionnel, ni pour chanter, ni pour jouer. Bon, la vie paysanne est difficile, bien sûr, et je n'avais pas du tout l'idée que je pourrais me consacrer qu'à ça, quoi. Après, il y a eu la pression des gens, de ses amis, qui lui ont dit... Il avait un don qu'il fallait qu'il le développe, donc ce serait dommage de laisser ça en friche.
Est-ce que pendant la guerre, il a pu poursuivre sa musique? Comment peut-il me raconter la manière dont il a continué à jouer de son art?
Non, je ne suis pas un احترف الفن اما بعدني لحد هلا يعني كنا اول شيء عزابي تعبانين مع اهلاتنا هلا تجوزنا صرنا تعبانين مع اولادنا.
En fait il n'a jamais vraiment je précise quand même qu'il n'a jamais vraiment pratiqué la musique de manière professionnelle. Il dit aussi que quand il était jeune il se donnait du mal avec ses parents. Maintenant qu'il est marié, il se donne du mal avec ses enfants, puisqu'il en a 9. Et donc, il n'a pas non plus le temps, malheureusement, de pratiquer à plein temps. Quand c'était la guerre, bien sûr c'était la guerre, il y a eu des périodes de grande tristesse, mais les mariages, les occasions de joie ne manquaient pas non plus. Et donc dans ces cas-là, on chantait et on faisait de la musique comme à d'autres occasions. Et Youssef précise avec un proverbe qui dit « Chaque heure a ses anges particuliers ».
عدنا التقينا بأعز أحبابنا وعدنا التقينا بأعز أحبابنا.
Est-ce que il peut me dire dans quel registre il va puiser son imagination pour jouer?
الله بالله بالنسبة للمجوز في مثلا تقسيم هاي يعني بدل ما يعني يطلع دقة رقص الواحد إنه كيف رقص هيك عربي شو اسمه أول شيء بيطلع تقسيم هاي نغمة شيء والنغمة الرقص شيء كل حتى الغنى يعني
Oui, il y a donc plusieurs niveaux. D'abord, bien sûr, il y a les introductions instrumentales au Mejouez qui s'appellent en arabe les Tertassim. C'est un prélude qu'on découpe en morceaux, quoi. C'est ça l'idée du mot Tertassim. Et puis ensuite, il y a les danses qu'on joue également au Mejouez. Et puis, il y a les chansons qu'on accompagne au Mejouez et qui ont des titres plutôt de par la poésie. Alors, il faut dire aussi que Youssef est également poète. Donc, les chansons traditionnelles du Liban sont connues effectivement par des titres ou par les onomatopées des chansons, comme Yami Jana, Yami Jana, qui est un air donc très connu sur lesquels sont composés de nombreux poèmes, ou bien Ataba, ce qui est une sorte de complainte où on utilise toujours la rime ba dans la composition de la poésie. Il y a encore un autre air très connu qui s'appelle Abou Zelouf. En fait, c'est une déformation de l'incipit poétique qui disait exactement Yom Mozelouf, Yom Mozelouf. Ô toi qui as les Bennat, je te donne tout le Liban jusqu'aux frontières de la Syrie.
Quels sont, puisque Youssef est un poète, quels sont les thèmes qui en ce moment parcourent sa tête et sa musique?
Un jour, donc, il compose surtout du Ataba. Qui est donc cette forme poétique avec la rime en bas. Et donc un jour, assez récemment, il était assis à une table. Il y avait des gens donc, qui étaient là à présent. Il a senti qu'il fallait qu'ils disent quelque chose en Ataba à leur propos et en leur présence, bien sûr. Toi la belle, regarde-moi avec tes yeux. C'est sûr qu'il y a de l'amour dans tes yeux. Donc la rime est faite en fait souvent sur des jeux de mots, hein, comme vous
voulez.
Donc il parle à cette belle femme, il lui dit « Regarde-moi avec tes yeux, de façon à ce que je puisse te donner en fait ma demeure dans mes paupières. »
أهلاً وسهلاً شرفونا أصحابنا أهلاً وسهلاً شرفونا صحابينا أوف 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 هلا 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 بيكم عدد ما الشعر حلا وهلا بيكم عدد ما القطر حلا يا ويلي وأرض الداس هالحضار حلا عصخر السم نبت لنا عشابة يا عيني.
Selim Nassib, dans votre livre, vous évoquez aussi la campagne, et je voudrais vous citer page 96. Vous dites « Je suis sortie dans le jardin, je suis montée sur le prunier. La vallée n'était plus qu'un abîme obscur. Tout en bas, une multitude de lumières agglutinées forme comme une tête scintillante qui s'avance dans le noir de la mer. Je suis hors d'elle, elle existe sans moi. C'est Beyrouth. » Alors, est-ce qu'il faut prendre de la hauteur pour voir cette ville ?
Oui, c'est-à-dire que bon, ce livre, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui essaye de devenir un homme. Or, il grandit dans un pays où, justement, chacun parle un accent, chacun a une identité, même s'il y a quelque chose de commun, et c'est comme si on ne parvenait pas facilement à assumer, à être un homme, à grandir, à devenir libre, à apprendre à dire « je ». Bon, ce n'est pas une conscience très dramatique parce qu'il est à la montagne, il monte dans les arbres, il voit la ville de loin, il a l'impression que c'est une chose qui existe sans lui, qu'il est un peu émerveillé quand même par l'intériorité, l'extériorité des choses. Il cherche une voie, il cherche une façon de devenir un homme. C'est ça.
C'est une initiation.
Oui, c'est un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique dans un pays qui est comme une mosaïque complètement éclatée. Enfin, elle n'était pas éclatée, mais on se rendra compte par la suite, avec la guerre, que ces communautés aux accents différents peuvent aussi s'entretuer. Mais je voudrais ajouter quelque chose sur cet homme qu'on vient d'entendre, Youssef Mousselia. Il appartient quand même à une région, le Chouf, qui est une montagne au sud-est de Beyrouth, où chrétiens et druzes coexistaient depuis des centaines d'années, et où, pendant la guerre civile, en 83, ils se sont entretués, à la faveur, si on peut dire, de l'occupation israélienne. Et il en a résulté que tous les chrétiens sont partis. Tous les chrétiens sont partis, les druzes sont restés tout seuls, des villages ont été détruits, des maisons ont été détruites. Youssef dit quelque chose de très drôle en disant « la guerre c'est la guerre et la joie c'est la joie ». Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'une dizaine d'années plus tard, ils se sont grattés la tête et ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup moins bien à vivre tout seul qu'à vivre avec les autres, ce qui fait qu'ils leur ont demandé de revenir. Et moi j'étais cet été et j'ai vu que la guerre c'est la guerre et la paix c'est la paix, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau ensemble, de nouveau voisins, et qu'ils chantent à peu près la même chose.
Selim Nassib, je vous propose de nous rendre à Baalbek un petit matin, à peu près à 10 minutes à pied du site romain. Nous avons été reçus par Ali Olaïl dans son salon. Ali est un grand chanteur de la Beka. Il est l'héritier d'une culture bédouine. C'est aussi un magnifique joueur de rebab, cette vielle monocorde. Et avec lui, nous avons parlé tout d'abord généalogie. Ali, vous représentez dans ce programme de l'Institut du Monde Arabe, je dirais, un pan de la culture libanaise bédouine. D'ailleurs, vous êtes, je dirais, presque le représentant le plus traditionnel dans cette programmation. C'est une culture que l'on connaît peut-être pas forcément très bien ici en France, par rapport à ce qui se fait musicalement, artistiquement au Liban. Vous vivez ici à Baalbek et vous nous recevez dans votre demeure. J'aimerais que vous nous donniez un petit peu l'historique de l'arrivée de votre lignée familiale dans cette ville.
Effectivement, la famille Halahil remonte à une lignée assez ancienne, puisqu'ils sont à Baalbek depuis 450 ans, avec trois ou quatre autres familles importantes, comme les Harfouch et les Abdou. Et ils savent qu'ils viennent tous de la région du Nejd, donc qui est le centre de la péninsule arabe et de l'actuelle Arabie Saoudite, qui sont venus donc du Nejd vers l'Irak et de l'Irak vers l'est du Liban. Et ils sont en fait d'une tribu très connue qui a encore des rameaux là-bas, qui s'appelle les Ranazé. Quand ils sont arrivés, un émir qui s'appelait justement Harfouch, qui dirigeait en fait la région avec ses autres familles proche et je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils ont fait souche, c'est parce que il y avait une structure politique qui s'est installée là et qui dirigeait donc la région.
Oui, parce que des nomades ils sont passés à sédentaire alors.
Des nomades ils sont passés au sédentaire. Oui.
Est-ce un clan qui déjà dans les siècles passés, puisque là on remonte quand même à 450 ans, a toujours eu un rapport étroit avec la musique, ou est-ce que c'est plus récemment que cela est venu?
La musique, ma elle, انما انا حبيت الفولكلور يعني بنقول بلدنا بعلبك.
C'est effectivement un folklore, enfin des traditions populaires bédouines qui se sont installées ou qui se sont diffusées dans la région de Baalbek. C'est pour cette raison-là que la région de Baalbek est finalement, d'après Ali en tout cas, la région la plus riche en traditions musicales, poétiques et folkloriques. Parce que justement, elle est ouverte vers la steppe, vers l'est, et donc qu'elle s'est nourrie de toutes ces traditions nomades qui sont venues à travers les siècles, à travers les générations. Donc évidemment, dont on n'a pas une mémoire autre que orale et assez fragmentaire. Ce qui est intéressant aussi à Baalbek, c'est que c'est une sorte de synthèse, parce que aujourd'hui ici, on est plus des nomades, mais on a gardé justement une culture nomade quand même. Donc il y a, et elle s'est bien sûr synthétisée avec aussi des coutumes sédentaires, et voire citadines d'ailleurs, puisque Baalbek est aussi une ville, bien sûr.
Ali Olaïl anime fêtes et mariages. Des fêtes, il en est aussi question dans votre livre, Selim Nassib, et notamment de la Bar Mitzvah, ce moment d'initiation où le héros de votre livre, Youssef, déclare, page 80, « Ma Bar Mitzvah est dans 3 semaines, les adultes s'éclipseront avec des sourires entendus, cette nuit sera ma nuit, les meubles seront poussés contre les murs, le tourne-disque s'égosillera dans les pièces vides, on aura peut-être tamisé les lumières, les tables seront couvertes de petits fours et de boissons gazeuses, il y aura des cotillons. Déguisé en homme, je serai maître des lieux, maître des filles surtout, aucune ce soir ne pourra me dire non, c'est la règle. Je m'avancerai les bras ouverts en disant « prenez-moi, apprenez-moi ». Alors évidemment, on passe là dans un autre registre, mais un registre où effectivement il est donc question d'initiation. C'est une vision quand même très très négative que vous avez de la Bar Mitzvah dans votre roman.
Négative
au sens où le rituel, pour vous, est quand même quelque chose de pas très sympathique, ou en tout cas dont vous vous sentez extérieur.
C'est-à-dire qu'il y a toujours ce balancement entre ce qu'il y a de bien dans le rituel, qui permet d'accéder, justement, mais qui permet peut-être d'accéder à un monde plus petit, qui est celui de la communauté. Et quand même la tentation d'appartenir à une communauté beaucoup plus grande, puisqu'il y a une base pour une communauté beaucoup plus grande, puisqu'il s'agit de la même langue, il s'agit de la même musique, il s'agit de... vraiment, c'est-à-dire que le nombre de choses qu'on partage, c'est énorme. Et à la fois, il y a une fascination et une espèce de répulsion. Mais ce mouvement, à mon avis, n'est pas propre ni à la Bar Mitzvah, ni au fait que le héros est juif dans un pays libanais, parce que, je ne sais pas, moi j'ai eu des lecteurs musulmans, chrétiens, ou même pas libanais du tout. C'est-à-dire toute personne, je ne sais pas, j'ai des amis de Lyon, toute personne qui a eu une enfance un peu difficile à passer pour accéder à ce qu'on appelle l'âge d'homme ou de femme éventuellement, voilà, il y a ce mouvement comme ça d'aller-retour entre l'attraction pour le rituel qui permet d'accéder et une méfiance un peu viscérale, un peu dégoûté presque de ce ventre trop familial, trop communautaire, trop pris dedans.
Étouffant.
Étouffant. Et donc, il y a ce balancement qui dure quand même, je crois, sur l'essentiel du livre, avant qu'il ne trouve une issue. Et cette issue, elle n'est pas du tout dans le respect du rituel. L'issue, il la trouve lui-même par sa propre expérience, c'est-à-dire, c'est une façon de découvrir comment il peut être lui-même « je ».
Alors pour Ali Olaïl, les traditions, elles se transforment et il est absolument nécessaire pour son travail d'en tenir compte.
كان هذا اللون انقرض من 17 سنة. كان مهدد بالانقراض. من 17 سنة كان ما يعرف يدبك إلا أهل البقاع فقط.
Effectivement, tout ce patrimoine était en train de disparaître dans les années 70. Mais depuis que Ali s'est lancé finalement dans l'activité professionnelle, dans la pratique professionnelle du chant et de la musique, il a redonné une certaine impulsion à ces choses-là parce que il a voulu délibérément remettre à l'honneur, mais en même temps, il n'a pas vraiment dit ça comme ça, mais peut-être en dépoussiérant un peu la tradition, en essayant de lui donner plus de brillant. Il a dit qu'il évitait de faire que les gens s'ennuient. Il essaye de remettre à l'honneur donc beaucoup de mélodies, de chansons, de coutumes qui sont inconnues, alors que d'une certaine manière, il y a ce qu'on appelle un folklore libanais au Liban, qui a été popularisé par des auteurs, des compositeurs à grand succès, mais qui sont souvent commerciaux et qui finalement ne connaissent pas, n'ont pas une connaissance profonde. Donc ils ont tendance d'abord à s'imiter les uns les autres et toujours finalement à chanter les mêmes mélodies et en plus à composer souvent dessus des paroles qui ne correspondent pas bien au style des mélodies. Ce qui fait que aujourd'hui, ce folklore, ou du moins cette tradition, n'est plus réduite du tout à Baalbek. Au contraire, elle a eu beaucoup d'écho dans tout le Liban. Ali est une vedette très connue et grâce à sa célébrité, il a imposé d'une certaine manière un certain style et fait connaître aussi aux jeunes toute une culture, parce que du coup les gens connaissent les noms des chansons. On chante beaucoup des mélodies comme Alad al-Rouna, Hawara, Mijana, etc. Bon, ça c'est 4, 5, 6 mélodies très connues.
Mijana, c'est quoi? Juste une petite...
Moumken tartina fikra an Mijana masala.
كيف بيغنوا يعني؟
كيف بيغنوا؟
الميجنة الميجنة.
Alors si, puisque je suis bien son exemple, par rapport à tout ce que vous venez de me dire, ça c'est selon la tradition. Et qu'est-ce que ça peut donner des fois quand c'est déformé?
C'est donc la partie prélude, on appelle ça le off, puisque c'est l'onomatopée qui correspond à la chanson.
فرح يا قلبي بوجود أحبابنا وفرح يا قلبي وبي وجودي حي نفس هذه
Oui, donc là, c'est le chœur qui reprend et qui se lance après dans une partie mesurée, donc qui est plus.
مباشر وراها بتجي البيت العتبة بعد ميجانا بيجي العتبة قانونا يعني بيجي.
Donc après le mijana vient le rataba, donc ce sont deux genres qui sont un peu liés par un lien de succession en fait. Le mijana donc a deux sortes, enfin le mijana rythmé comme ça, il y a deux sortes, donc l'un s'appelle celui du Golan. Et l'autre, le bédouin.
عاجينوا عني وابعدوا أو بدعي على عيون الصايغ يرمادوا علش ما صغلي للترك مشنشال يا ميجانا ويا ميجانا هاي البدوية الأخف شوي كمان جولاني
الجولاني maintenant qui est plus rapide.
ظريف الطول هدي لقلك رايح عالغربة بلادك أحسن أو خوفي المحبوب تروح وتتملك تعاشر الغير وتنساني أنا وتعاشر الغير وتنساني أنا.
Alors faire une émission en se posant la question existe-t-il une musique libanaise, eh bien évidemment on ne peut pas, elle est incontournable, ne pas parler de Fairouz.
Évidemment.
Je dirais qu'elle fait battre peut-être un peu plus vite le cœur des Arabes et peut-être aussi le cœur des mélomanes qui sont sensibles à sa voix, Selim.
Oui, Fairouz quand même s'est imposé. Je ne sais pas, là, ça fait bien 30 ans qu'elle occupe le devant de la scène avec sa famille qui sont tous compositeurs qui ont composé pour elle. Et maintenant son fils Ziad qui reprend le flambeau, mais elle continue à chanter.
Un souvenir ?
De Fairouz ?
Oui.
Moi, je l'ai interviewé un jour, je l'ai trouvé assez difficile à interviewer parce qu'elle est, elle est raide, elle est timide, elle se libère et j'ai l'impression qu'une fois qu'elle est sur scène, c'est assez formidable, en particulier quand elle s'était produite à Bercy il y a, je sais pas, une dizaine d'années, c'était encore la guerre.
Fairouz, d'après moi, était le plus grand instrument des deux frères Rahbani, Asi et Mansour. Moi, je crois que la voix de Fairouz a beaucoup apporté aux expériences musicales de Asi et Mansour Rahbani. Et sans Fairouz, je crois que Asi et Mansour Rahbani, même musicalement, auraient une autre valeur, une autre dimension. Contrairement à ça, je crois que Zaki Nassif, qui est un des plus grands musiciens libanais, le grand drame de sa vie, c'est qu'il était un grand musicien, mais il ne trouvait pas une grande voix comme Fairouz pour apporter sa propre musique. C'était son plus grand drame, même jusqu'à maintenant. Alors que la bonne chance, d'après moi, de Asi et Mansour Rahbani, était que Fairouz était l'élément numéro 3 dans ce groupe musical très important. La voix de Fairouz, je crois, n'a pas été capable seulement de porter la musique des Rahbani seulement aux auditeurs libanais, même hors du monde arabe, partout dans le monde entier.
Je crois qu'on ne peut pas discuter le fait que Fairouz est un timbre exceptionnel et que sa sensibilité est exceptionnelle aussi. Seulement, pour catégoriser les choses, si vous voulez, Fairouz est une citadine, donc elle n'est pas versée dans le champ rural des pays de Bilad al-Sham, dans la Grande Syrie, ce qui fait que, par exemple, si on la compare à Sabah, qui vient de Wadi Shahrour, donc d'une région rurale, si on compare Fairouz à Wadi Assafi, qui vient, lui, de Nihashouf, donc d'une région rurale, ils sont tous les deux absolument excellents dans ces modes ruraux, Mejana ou l'Ataba ou Abu Zulouf, etc., alors que Fairouz était une citadine qui faisait, si vous voulez, l'apprentissage dans ces modes-là. Alors, comme le mouvement essentiel de la musique libanaise dans la deuxième moitié du XXe siècle était justement de citadiniser la musique rurale, Sabah a a eu un petit avantage, un très grand avantage. L'avantage de Fairouz, c'était ce timbre excellent, exceptionnel, et cette sensibilité exceptionnelle, alors ce qui fait qu'elles se sont égalisées, si vous voulez. Elles étaient concurrentes pour avoir la première place. Mais...
qui est souvent une excellente émulation.
Oui, oui, c'est excellent, c'est pour notre avantage.
Merci.
Ce sont là des détails qu'il faut dire parce que ça un peu clarifie. Qu'est-ce que c'est Fairouz? Qu'est-ce que c'est savoir? Qu'est-ce que c'est cette musique-là?
Je suis tout à fait d'accord parce que d'habitude, on croit aussi qu'il n'y a à Beyrouth comme grande voix que Fairouz. Elle est bien sûr une voix excellente. Même le plus grand musicien arabe, qui est l'Égyptien Abdel Wahab, disait ça et il a donné trois ou quatre morceaux de sa plus belle musique à Fairouz pour chanter. Mais avant Fairouz, il y avait trois ou quatre grandes chanteuses. Ce que Fairouz a fait vraiment, qu'elle était la première voix peut-être féminine à apporter la musique classique arabe au dialecte musical libanais. C'est ça ce qui a donné le plus de réputation à Fairouz.
Oh.
Il sera le 6 et 7 novembre à Paris à l'Institut du Monde Arabe, Ziad Rahmani, le fils de Fairouz. Et nous avons demandé au frère Shahad de nous donner la façon dont il concevait la force musicale de ce grand musicien.
D'abord, Ziad, d'après moi, est un grand génie de la musique arabe. Peut-être le plus important musicien arabe de la nouvelle génération, dont tout le monde arabe, pas seulement au Liban. Maintenant, je crois aussi que Ziad représente un grand tournant actuel dans la musique arabe. Il a un pied dans le patrimoine de la musique classique arabe, mais aussi il a un autre pied dans de l'influence de la musique occidentale dans les pays arabes. Ziad, dans sa musique, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va présenter dans ce festival à Paris, parce qu'il a plusieurs genres de musique, Ziad. Je ne sais pas s'il veut jouer de sa musique proprement libanaise, ou bien s'il va... il a beaucoup de musique qu'il appelle, lui, le jazz oriental. D'après moi, c'est une expérience qui n'est pas encore achevée et dont l'avenir n'est pas sûr.
Pour les plus anciennes générations et aussi pour la jeune génération, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, les Liyaliens qui ont 20 ans, à votre avis, qu'est-ce que représente Ziad ?
Ziad n'est pas seulement un musicien pour ces gens, parce que Ziad travaille beaucoup sur le côté politique, peut-être plus que sur le côté artistique. Alors il représente peut-être un nouveau langage politique et aussi un nouveau langage artistique. C'est pourquoi je crois qu'il est un star qui veut beaucoup dire comme symbole pour la nouvelle génération libanaise. ارخي القصة شو بدك عيب شو بدك عيلك عيل ارخي القصة شو بدك عيل.
Ziad Rahmani, c'est un musicien que vous connaissez bien, c'est lui ?
C'est pas seulement comme musicien, parce que... Enfin... Non, c'est important parce que c'est un enfant de la guerre. Il est déjà le fils de Fairouz, et Fairouz est connu vraiment dans tout le monde arabe. Et lui, sa génération, c'est la guerre. Et donc, il a commencé à faire des pièces de théâtre, des sketchs, des chansons, des touche-à-tout, enfants terribles. Donc, il est, à mon avis, beaucoup plus connu comme personnage sarcastique, mordant, qui a fait des émissions de radio, par exemple, où il est extrêmement mordante et tout. Et sa musique, lui, effectivement, il a voulu mélanger la musique d'Orient et d'Occident. C'était pas toujours heureux, parce que c'est vraiment, bon, il a envie de jouer du jazz très bien, il le mélange à la musique arabe très bien. Mais ce n'est pas ce côté-là qui est le plus formidable, j'ai dit. Le plus formidable, c'est que c'est quelqu'un qui a accompagné les Libanais pendant toute la guerre libanaise en étant absolument pas bien pensant et en poussant la provocation, en faisant des pièces de théâtre, du théâtre chanté et de la musique, ce qui en fait un vrai personnage.
Avec un très grand sens de l'humour aussi.
ساعة بتخفف ساعة بتقوي وقال شي نوي انت بتعوي هيك صعب العيشي هيك قالي عم فكر بغاني وياك لك ليه عم تعمل هيك
هاي تاني مرة بتحكيني هيك لك ليه عم تعمل هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي نايم تاركني عم بوي
يا عواطف حاجة تتلوي هيك
صعب العيش هيك أني عم فكر ابقى أني وياك ليك ليه عم تعمل هيك هل إنك عم تنشع بعينك ليك وكيف بتعمل هيك
الله يرحم اللي سواك هيك ليه لا عملك هيك
ليه لا عملك هيك
C'était « Existe-t-il une musique libanaise ?» un numéro de Musique du Monde proposé par Caroline Bourgine avec Selim Nassib, Victor et Elias Saab, Youssef Mousli et Ali Oleil. Traduction Jean Lambert, première diffusion le 3 novembre 1998 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.